l'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Erebos. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
On a frappé à la porte. Entrez. Entre la bonne, une petite jeune fille dans les 20 ans, habillée en bonne, avec le regard très doux. Elle lui dit, « Madame, c'est Monsieur Albert. » Elle lui dit, « Amenez-le ici. » La bonne ressort. Puis, ouvre la porte. Et entre Albert, qui est un homme dans les 50 ans, grand, maigre, visage sec, yeux bleus profonds, cheveux courts blonds. Il porte un costume marine. En allant vers Jeanne, il lui dit nerveusement, « Bonjour, mère. » Elle lui dit sans se lever, « Bonjour, Albert. Tu as quelque chose à me dire ?»« Me dire ?» Il reste debout devant elle. Elle ne lui dit pas de s'asseoir. Il lui dit, « Je suis venu te parler de ceci. » Et il sort de sa poche un journal plié. Elle prend le journal, le regarde et lui dit, « Et alors ?»« Là, tu n'as pas lu l'article en haut de la page ?» Elle regarde et lui dit en haussant les épaules, « Et alors ?» Il lui dit, « Il faut faire quelque chose, il est dangereux. » Elle lui demande, qu'est-ce qui te dit que c'est lui ? Il répond, je le sais, on me l'a dit. Tu ne peux pas le nier, tu ne peux pas protéger ce fou dangereux. Elle lui répond, il n'est pas dangereux. Il lui dit, et ça ? Elle hausse ses épaules et lui dit furieux, et ça, ce n'est rien ? Ce qu'il a fait, il tue sauvagement une personne ? Elle lui dit, je ne sais pas qui c'est. Et puis, je protégerai toujours mon petit-fils. Et toi, tu la connais ? Ce n'est rien. Il lui dit furieux, si tu ne le fais pas enfermer, je te dénoncerai. Elle répond furieuse, je ne veux pas faire enfermer mon neveu. Tu ne peux pas faire enfermer ton neveu. Je te l'interdis. Il lui demande, « Et que comptes-tu faire ?» Elle lui répond, « Rien. » Il lui dit, « Eh bien moi, je vais agir. » Elle lui dit, « Si tu fais quelque chose contre le petit, je te déshérite de mon vivant. » Il lui dit furieux, « Pourquoi es-tu tant attaché à lui ?» Elle lui dit, « Parce que je l'aime. C'est mon seul petit-fils. Je suis pour rien, je n'y suis pour rien, si tu ne peux pas m'en donner. » Il lui répond furieux, « Est-ce de ma faute à moi ?» Elle lui répond, « À moi non plus, si tu ne peux pas avoir d'enfant. » Il dit furieux, « Et alors ?» Pour avoir le petit toute seule, c'est sans doute pour ça que tu as. Furieuse, elle le gifle. Il n'y a que la vérité qui fâche. Et il quitte le bureau en courant. Une fois rentré chez lui, à Versailles, dans une maison de 2 étages, moderne, au fond d'un parc, il retrouve sa femme, Denise, qui est encore dans sa chambre. La pièce est vaste, très claire, avec des meubles en bois blanc. Elle est à sa coiffeuse, en train de se brosser les cheveux en robe de chambre blanche. Dessous, elle a encore sa chemise de nuit transparente blanche. C'est une femme de 45 ans, grande, mince, l'air triste, cheveux blonds courts, yeux bleus. Lorsque la porte s'est ouverte, elle s'est retournée et le voit arriver. Il a l'air furieux. Elle lui demande, « Que se passe-t-il » Il lui répond, « Adrien a tué sauvagement une personne. » Il lui donne le journal. Et le regarde, ne voit rien. Il lui dit, « L'article là, qui est en haut, à droite. » Elle le lit. Elle lui demande, « L'article ne dit pas que c'est lui. On ne le sait pas. » Il lui dit, c'est le chauffeur de ma mère qui m'a raconté l'histoire. Le chauffeur est allé le chercher. Il l'a trouvé sortant du parking plein de sang. Elle lui dit indignée,
il faut faire quelque chose. » Il lui dit furieux. « J'étais voir ma mère, mais elle ne veut rien entendre. Son petit chéri est soi-disant doux comme un agneau. Lorsque je lui ai dit qu'il avait tué une inconnue, elle m'a ri au nez et m'a dit « Et alors, tu ne la connais pas ?» Je lui ai dit que si elle ne faisait rien, j'allais moi le dénoncer. Alors elle m'a dit qu'elle me déshériterait de son vivant. La femme soupire et lui dit « Écoute, cela fait des années que ça dure. J'ai pensé à une chose. Vu sa façon de se comporter, nous pouvons demander, c'est de la mettre sous tutelle et dans une maison. » Il lui demande « La mettre sous tutelle, sous quel motif ?» Elle va avoir des témoins qui vont dire qu'elle gère bien ses affaires. Elle lui dit « Le motif, c'est Adrien. Elle est devenue gaga pour lui. Et en le protégeant, en sachant ce qu'il fait, une personne sensée ne protégerait pas un fou furieux. Cela prouve qu'elle a besoin d'être mise sous tutelle, parce qu'elle aussi est dangereuse en protégeant Adrien. » Il lui dit « Tu as raison. J'en ai assez de cette affaire. Qu'elle me parle comme ça. Elle me traite plus mal que ses domestiques. Oui, tu as raison, il faut faire quelque chose. » Et lui demande, « Et si on ébruitait l'histoire de cette nuit ?» Il lui répond, « Non, d'abord, il faut aller voir notre notaire. Cette histoire peut nous nuire, parce que nous sommes au courant de la violence d'Adrien. Nous aussi, nous aurions dû le dénoncer depuis longtemps. » Elle lui dit, « Tu as raison. Il faut demander conseil à un avocat. » Il réfléchit et lui dit, « Ce serait peut-être plus simple, c'est de dire qu'Adrien est faible psychologiquement et fait avec des crises terribles qui risquent de nuire aux autres et que sa grand-mère n'a pas les capacités pour s'en occuper. Il faudrait peut-être le mettre dans une maison spécialisée. » Les Forvigny ont dans le monde entier des entreprises de produits de beauté et de parfums. La marque Forvigny est reconnue dans le monde entier. C'est une société familiale, c'est le mari de Jeanne qui a créé cette société, ou plutôt ses sociétés. Lorsqu'il est mort d'une crise cardiaque, il y a de cela 20 ans, c'est sa femme qui a hérité de toutes les actions de son mari. Ses deux fils n'ont eu qu'à se partager une petite part de la fortune. C'est elle qui préside le conseil d'administration malgré son grand âge. Mais c'est une femme autoritaire et sait ce qu'elle veut. Son fils cadet est mort d'un accident de voiture avec sa femme et ont laissé orphelin leur enfant. La grand-mère a pris le petit Adrien avec elle et s'est prise d'affection pour cet enfant. Mais, très tôt, elle s'est aperçue que l'enfant avait des problèmes psychologiques. Il parlait peu, avait des difficultés de comportement, avait l'air hagard, le regard fixe et mort, mais de temps en temps prenait des crises de violence terribles. Petit, ces crises étaient peu fréquentes, mais très fortes. Il ne supportait aucune contrariété. Un jour, parce qu'on lui refusait un morceau de gâteau, pris de fureur, il plante sa fourchette dans le bras de sa nourrice. Au fur et à mesure qu'il grandit, ses violences sont de plus en plus fortes, imprévisibles et de plus en plus violentes. Sa grand-mère s'en est très vite aperçue et a toujours cherché à cacher et à le défendre. Elle donnait des sommes aux domestiques qui étaient les victimes de son petit-fils pour qu'ils se taisent. Les études de l'enfant ont été pour ainsi dire nulles. Il a tout juste appris à lire et écrire. Sa grand-mère a essayé de l'envoyer à l'école, mais tu ne pouvais pas suivre. Et puis, elle avait peur de ses violences, alors elle a préféré le garder chez elle. Lorsqu'il est entré dans l'adolescence, elle a voulu lui donner plus de liberté, mais très vite elle s'est aperçue qu'il était trop violent pour les autres. Elle est obligée, c'est de cacher certains faits et a décidé de le garder enfermé chez elle. Ça l'a beaucoup attristé, mais elle peut faire autrement. Et puis son fils a appris qu'Adrien était violent et est obligé de le défendre vis-à-vis de son fils. Adrien, sa seule passion, c'est les voitures. Il fugue, c'est pour aller en ville et voler une voiture, pour rouler pendant des heures sur l'autoroute. Plusieurs fois, il était ramené par la police pour avoir volé une voiture et conduit sans permis. La grand-mère a toujours arrangé les choses en donnant une bonne somme aux policiers pour leur œuvre, en lui disant que c'était une faute de jeunesse. Adrien reste allongé et ne bouge pas, ne se souvient de rien, ne se cherche pas à se souvenir parce qu'il ne sait pas qu'il doit se souvenir de quelque chose. Il se dit simplement « J'ai faim ».
J'ai faim. J'ai faim. La porte est ouverte. C'est sa grand-mère avec un plateau du petit déjeuner. Elle s'approche de lui avec le sourire et s'assoit, et lui s'assoit dans le lit. Elle lui dit « Voilà ton petit déjeuner, mon chéri. » Elle pose le plateau. Et lui sert son café au lait. Elle lui dit « Fais attention, il est chaud !» Il prend le bol des deux mains et en boit une gorgée. Elle lui prépare une tartine de confiture. Il mange de bon appétit. Elle le regarde et lui dit « Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait c'est que tu restes au lit. » Il lui demande « Pourquoi ?» Elle lui dit « Parce que tu as été malade, mon chéri. » Il lui demande encore « Qu'est-ce que j'ai eu ?» Elle lui dit « Une petite crise, comme d'habitude. Mais ce n'est rien. Ne te fais pas de soucis. » Il lui dit « Je me souviens plus de rien. Pourquoi est-ce que je ne peux pas sortir dehors ?» Elle lui répond « Parce que tu es malade. » Il lui dit « Moi, j'aimerais bien s'y sortir pour pouvoir conduire une voiture. » Elle lui dit « Pour le moment, tu ne peux pas. Il faut que tu sois guéri. » Il soupire. Elle lui dit « Calme-toi, parce qu'autrement, tu risques d'avoir encore une crise. » Une fois qu'il ait pris son petit déjeuner, elle met de l'eau dans un verre. Elle lui présente 4 comprimés à avaler. C'est ce qu'il fait. Elle lui dit « C'est bien, mon chéri, c'est bien. » L'embrasse sur le front, prend le plateau. Et sort de la chambre. En fermant la porte, Adrien soupire et se dit « On m'attendait toujours de faire ce que je veux. J'en ai marre. Je veux me sauver d'ici. » Il se lève et va vers la porte. Essaye de l'ouvrir. voit qu'elle est fermée à clé. De fureur, il crie et tape avec ses poings sur la porte. Ouvrez-moi! 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 N'entendez pas. Il crie, ouvrez-moi! Une voix demande. Mais je veux quelque chose, monsieur Abeilla. C'est la voix de la bonne. Il lui crie, ouvrez-moi! Elle lui dit, je ne peux pas. Il lui demande, pourquoi? Elle lui répond, parce que madame ne veut pas. Il lui demande curieux, pourquoi? Elle lui répond, parce que vous avez été malade. Il lui dit, mais je vais très bien. Elle lui dit, vous n'êtes pas guéri. Il entend que les pas s'éloignent. Il est furieux. Du poing sur la porte et crie, je veux sortir, ouvrez-moi. Il est furieux, se sent prisonnier, il ne sait pas pourquoi. De rage, il court à la fenêtre de sa chambre, ouvre les doubles rideaux et la fenêtre. Là, il monte sur le rebord de la fenêtre et se lance dans le vide. De ses mains, il s'agrippe à une branche d'arbre qui est tout près de la fenêtre et descend de l'arbre. Vite, il se met à courir dans le parc jusqu'au portail. Arrivé au portail, il essaye de l'ouvrir. Mais il est fermé. Alors, d'orage, il cogne avec ses poings sur le portail. Caméra de surveillance le voit. Vite, des gardes habillés en garde accourent à lui. Costume marine, porte à la ceinture, un revolver et matraque. Ils sont grands et forts. Adrien ne les a pas vus, tellement il est pris par sa colère. Un garde le tire par derrière et il est mené jusqu'à la maison. La grand-mère est devant l'entrée de la maison. Adrien lui crie, je veux sortir, je ne suis plus malade, je veux aller en ville. La grand-mère lui dit, il ne faut pas sortir comme ça, mon petit. Tu dois rester dans ta chambre, tu es malade. Ce n'est pas bien ce que tu fais là. Je suis très fâché. Tu me donnes beaucoup de soucis. Adrien lui crie, je ne suis pas malade, je veux sortir. Elle lui dit, tu sortiras lorsque je te le dirai. Adrien est furieux et veut se défaire de l'emprise des gardes, mais il ne le peut. Sa grand-mère s'approche de lui et lui dit, « Allez, sois gentil maintenant !» Elle lui donne un baiser sur le front et dit aux gardes, « Amenez-le dans sa chambre !» Oui. La grand-mère les suit. Une fois qu'il est mené à sa chambre, elle dit, couchez-le. Il est couché de force. Elle s'approche de lui et lui dit, qu'est-ce que tu voulais faire en ville en pyjama? Tu n'as même pas pensé à t'habiller pour partir. Tu vois, tu es encore malade. Tu n'as pas réfléchi pour partir comme ça. Tu n'as même pas pensé aux gens qui t'auraient croisé dans la rue. Il lui crie, je m'en moque. La grand-mère lui dit,
pas moi, parce que les gens se seraient moqués de moi, auraient pensé que mon petit-fils se comporte comme un fou. Moi, j'aurais eu honte. Allez, repose-toi maintenant. Allez.
Arrive à la chambre, la bonne, qui tient à la main une seringue, je suis un torchon.
Elle tend la seringue à la grand-mère. La grand-mère se penche sur Adrien et lui dit « Allez, donne-moi ton bras !» Adrien lui crie « Non !» Elle lui dit « Ne fais pas l'enfant !» Il lui dit « Je ne suis plus un enfant !» Elle lui dit « On ne le dirait pas. Tu agis comme un petit. Tu devrais avoir honte à ton âge d'agir comme ça. » Il lui dit « Non !» La grand-mère lui prend le bras de force. Il soulève la manche de son pyjama et lui fait la piqûre. C'est laissé faire parce que sa colère est tombée d'un coup. Pourquoi? C'est comme ça. La plupart du temps, il est, disons, comme un légume. Ces crises sont peut-être la lutte qu'il a en lui contre cet état de fait pour avoir une personnalité. Une fois que la chose a été faite, il se calme de lui-même et lui dit « Maintenant, tu vas être bien sage. » Et compter. Alors il se met à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle le laisse. 11, 12, 13, 14. Il ferme la porte à clé. 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Lui continue à compter, pas pour s'endormir, comme elle croit, mais pour avoir un point de repère sur la vie réelle. En comptant, elle a l'impression de s'accrocher au monde réel. Se sent obligée, pour éviter de sortir du monde, de rester conscient, de se concentrer. C'est pour cela que lorsque le chauffeur l'a rencontré en marchant, il comptait. Et avant, lorsque le médecin l'a rencontré en marchant, il comptait aussi. Albert, furieux, va voir son avocat qui habite boulevard Haussmann dans un immeuble cossu. Il est au deuxième étage, tout l'étage est à lui. L'avocat le reçoit dans son immense bureau meublé 15. C'est un homme. Grand, maigre, cheveux châtains, avec lunettes et costume marine. L'avocat lui demande « Alors, monsieur Forvigny, qu'avez-vous à me demander ?» Albert lui dit « Voilà, monsieur Germont, c'est au sujet de mon neveu. Il a des attitudes dangereuses vis-à-vis des autres. J'aimerais savoir si on pourrait le mettre sous tutelle. » L'avocat lui demande « Qu'a-t-il fait ? » ?»« Il est très dangereux. Fait des fugues. Excusez-moi. Et dans ces fugues, il vole des voitures et se bat avec des gens qu'il rencontre. Il est très violent et dangereux. » L'avocat lui demande. « Et il habite chez votre grand-mère. » ?»« Oui, maître. » L'avocat réfléchit et lui dit. « Vous et votre grand-mère, votre mère, savait depuis longtemps qu'il est dangereux. » Albert répond « Oui, maître. » L'avocat lui dit « Et vous n'avez pas cherché à le faire soigner ?» Albert lui dit « Ma mère
le soigne un peu, lui cache ce qu'il est vraiment. Et moi, je ne vois rien dire ni faire. Il est soigné par un médecin généraliste qui lui donne quelques petits calmants. L'avocat réfléchit et lui dit « Donc, vous savez que depuis plusieurs années, votre neveu est très dangereux pour lui-même et les autres, et vous n'avez rien fait pour le protéger et protéger la société. Si vous demandez maintenant à le mettre sous tutelle, on va vous poser des questions et vous demander pourquoi vous ne l'aviez pas fait avant. Vous risquez d'avoir des ennuis. Je vous conseille, c'est de ne pas demander à le mettre sous tutelle pour ne pas avoir des ennuis. Comprenez, vous auriez dû prévenir depuis longtemps les autorités que votre neveu était dangereux. » Albert demande « Alors que faire ?» L'avocat lui répond « Vous pouvez rien faire pour le moment. Surveillez-le et surtout faites attention qu'il ne soit pas pris par les autorités, car vous auriez des ennuis, vous et votre famille. » Albert, dépité, se retire. Il entre chez lui dans sa maison à Versailles, maison moderne de 3 étages, construite au fond d'un parc. La maison est blanche, avec de grandes baies vitrées, meublée avec des meubles modernes de grand luxe. Il va rentrer chez lui, monte à la chambre de sa femme au premier étage. Escalier de pierre, large, le premier étage est un grand couloir avec d'un côté des baies vitrées et de l'autre des portes. Il frappe à une des portes. Une voix dit. Il entre. C'est la chambre de sa femme. Une grande pièce avec baies vitrées, meublée, meubles blancs, avec un lit à 2 places. Il y a dessus le lit une fourrure blanche. Elle est assise à sa coiffeuse en habillé blanc. Elle est grande, mince, l'air triste, cheveux blonds courts, yeux bleus. Elle s'appelle, comme vous le savez déjà, Denise. Albert s'approche d'elle. Lui aussi est grand, maigre, yeux bleus profonds, cheveux courts blonds. Elle lui demande « Alors ?» Il lui répond « Il n'y a rien à faire. » Elle lui demande « Pourquoi ?» Il lui dit « Parce que nous aurions des ennuis. » Nous aurions dû prévenir les autorités qui étaient dangereux depuis longtemps. Elle réfléchit et lui dit. Si l'on pouvait dire que c'est elle qui est inconsciente et incapable de s'occuper de ses affaires, ni de son neveu, qu'il faudrait la mettre sous tutelle. Il hausse ses épaules. Pendant ce temps, dans le bureau de l'avocat, il téléphone à la grand-mère Jeanne de la visite du fils et lui dit ce qu'il a demandé. La grand-mère furieuse lui dit « Je vous remercie, maître, de m'avoir prévenu. » Elle réfléchit et lui dit « J'aimerais un rendez-vous avec vous, s'il vous plaît. » L'avocat lui dit « Venez demain, à 16h, à mon bureau. » Et le lendemain, à 16h, elle est dans le bureau de l'avocat. L'avocat lui demande « Je vous écoute, madame. » Elle lui dit « Eh bien voilà, maître. J'aimerais, c'est pouvoir déshériter mon fils. » L'avocat lui dit « Cela est difficile, la loi l'interdit. Mais de votre vivant, vous pouvez peut-être faire des dons. » Elle réfléchit et lui dit « Voilà, j'aimerais, c'est donner mes biens matériels, des actions, à mon petit-fils Adrien. » Mais pour que la loi ne voie pas que je déshérite entièrement mon fils, je lui laisserai une de mes entreprises et quelques actions. » L'avocat lui dit: « Bien, madame, nous allons régler tout ça. Il faudra tout de même faire attention. Votre fils risquerait, c'est d'essayer de vous faire annuler le testament. S'il se sent désavantagé par ce testament. » Ils préparent tous les deux le testament et l'avocat lui dit: « Bien, vous reviendrez la semaine prochaine pour signer le testament préparé. Il faudra, c'est que vous ameniez le testament préparé par nous deux et que vous deviez, c'est le réécrire à la main et l'apporter au notaire. Je garderai dans mon coffre le testament jusqu'à ce que vous viendrez le chercher pour l'apporter chez le notaire. » Être très prudent. Il ne devra sortir de mon coffre, et ceci par mesure de sécurité, que pour aller directement chez le notaire. Vous avez bien compris. Vous allez réécrire le testament que nous avons préparé à la main, et une fois que ce sera fait, vous me le donnerez pour que je le mette dans mon coffre. Et ensuite, lorsque vous pourrez l'amener chez le notaire, vous viendrez le chercher chez moi, le testament. Voilà. Une fois que Jean est parti, l'avocat prévient Albert de ce que lui a fait faire la mère. Albert est furieux. Il en parle à sa femme. La femme lui dit: « Il ne reste plus qu'à la supprimer. » Et il lui dit: « Ça ne servira à rien, puisque le testament est déjà fait. » Et il dit furieuse: « Il faut le détruire. » Il lui dit: « Mais il est chez l'avocat. » Elle lui dit: « Il faut payer l'avocat pour qu'il le détruise. » Il ouvre ses épaules. « Ça risque de coûter très cher. Et l'avocat pourrait nous faire chanter. » La chaleur ne baisse pas, il y a de plus en plus de malades qui ont des maladies respiratoires, fièvre, maladies de peau, de corps, etc. Jacques Rambert et Isabelle ont de plus en plus de travail. La clinique ne les emplit pas et dans les autres centres de soins non plus. Jacques se demande si ça continue. Ça ne va pas devenir une catastrophe sanitaire. Elisabeth lui dit: moi aussi, je crois. Parce qu'il n'y a pas que la France qui est atteinte par cette chaleur, sécheresse. Le manque d'eau, cela risque de créer des catastrophes. Parce que qui dit manque d'eau dit aussi manque d'aliments. Les gens, malgré leur faiblesse, s'énervent à cause de l'attente qui devient de plus en plus grande aux urgences. Paris, comme les autres villes de France, vit au ralenti.
Thank you.
la nuit sortent des égouts les rats. Les gens voient de plus en plus dans les allées vers les poubelles. Au début, ils sont solitaires. Et puis, on en voit de plus en plus. Ils sont de plus en plus nombreux dans les cuisines, les restaurants, magasins d'alimentation. On en voit aussi. Les gens les éloignent à coups de balai. Et certaines personnes qui se font mordre parce que les bêtes se défendent et sont très irritables. Les chiens, les chats en ont peur. Les enfants cherchent à jouer avec eux et se font mordre. Les personnes qui se font mordre se font désinfecter sans plus. Le service sanitaire de la ville dit que ce n'est pas grave, que c'est la chaleur qui les fait sortir. Les gens n'osent plus aller dans les caves. Les SDF se font mordre et ne se font pas désinfecter. Rambert en parle à Elisabeth dans son bureau de la clinique. Il dit « Je suis inquiet. Les personnes ne se font pas soigner lorsqu'ils sont mordus et même n'en parlent pas. Cela risque de donner des maladies. » Malheureusement, toute la situation est la même pour tous les États d'Europe. Les autorités ne font rien. Ils préfèrent attendre l'automne qui va bientôt arriver et les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Pourtant, la météo n'est pas optimiste. La poussière, ciel de plomb, pas la moindre fraîcheur ni vent. Rue Saint-Jacques, dans un immeuble délabré de 3 étages. Au 3e étage, la famille est Frais. Ils habitent un petit appartement avec des meubles récupérés. Une grande pièce qui sert de séjour et de cuisine avec évier qui est le seul point d'eau. La 2e pièce est la chambre unique pour les 3 personnes. Il y a un lit de 2 places pour les parents et un petit pour l'enfant. Dans l'appartement, il fait très chaud et le robinet d'eau ne donne qu'un mince filet. Les parents sont assis à table en train de manger un morceau de pain sec. Le père est un homme de taille moyenne dans les 30 ans, maigre, petit, cheveux châtains et habillé d'un vieux pantalon gris et d'un maillot de corps marine. La mère est aussi maigre, petite, à le regard triste, cheveux frisés, châtains et habillée d'une blouse à fleurs à dominance bleue. La mère soupire et demande « Qu'allons-nous devenir ?» Le père soupire.
Je ne sais pas. Le travail se fait de plus en plus rare à cause de la chaleur.
Elle lui dit, mais avant la chaleur, le travail était rare.
Il lui dit, je sais. Mais moi, j'ai honte de vous faire vivre comme ça.
et lui dit « J'ai de plus en plus de difficultés à trouver à manger, tout est trop cher, et puis il n'y a presque rien. Qu'allons-nous devenir ?» On entend les pleurs d'un enfant. Elle se lève et dit « Petit malade, j'ai de la fièvre. Nous ne pouvons même pas faire venir le médecin. »
Elle se lève et sort de la pièce pour aller à la chambre.
Là, elle retrouve penchée. Debout, le petit qui pleure.
Sourire.
Il la retrouve. Penchée sur le petit, va près d'elle. L'enfant est un petit garçon de 8 ans, blond, maigre, très maigre. Il a les yeux frévieux, fiévreux et habillé d'un pyjama. Il est en sueur, le regard fiévreux. Il pleure. La mère le berce pour le calmer. Elle lui dit
« Ça va aller maintenant, ça va aller. »
Elle dit à son mari,
va faire tremper du pain dans l'eau pour le petit.
Qu'est-ce qu'il va faire?
Sourire.
Les parents sont désemparés de ne pouvoir rien faire pour le petit. Ils n'ont pas les moyens de faire venir un médecin. Ils ont peur et honte de ne pouvoir le faire. Ils ne savent pas ce qu'a l'enfant, mais ont peur que ce soit grave. De nombreuses familles sont comme celle-là, sans emploi, sans argent, désespérées. La chaleur, la crise, le manque d'argent les rendent vulnérables à la maladie. Le corps, affaibli par le manque de nourriture et de soins, est une bonne aubaine pour les virus et microbes. Ceci est dangereux pour la société car les gens qui ne se soignent pas transmettent facilement des maladies et créent des épidémies. Les familles qui le peuvent, comme les Forvigny, ont l'air conditionné, piscine et ont les moyens pour se payer à manger, s'alimenter comme il faut, en tout cas jusqu'à maintenant, parce qu'avec la sécheresse, l'électricité aussi risque d'être rationnée et il risque d'y avoir des coupures de courant dans la journée. Pour ce qui est des aliments, là aussi, ça risque d'être rationné pour tout le monde. Adrien va beaucoup mieux, il est libre d'aller et venir dans la maison, sauf de sortir et aller dans le parc. Il demande à sa grand-mère pourquoi il ne peut pas sortir. Elle lui répond « Est-ce que mon chéri, il fait beaucoup trop chaud et que tu risques d'attraper une insolation ?» Alors, il retourne à sa chambre pour jouer avec des petites voitures, assis à terre, il les fait rouler sur le plancher. Sa grand-mère, qui va le voir ou ses épaules, et lui dit « pense qu'à ça. C'est dangereux, les voitures. »
Il répond en se levant.
« Non, c'est pas dangereux. Et puis j'aime ça. J'aime la voiture. »
Sa grand-mère soupire et lui dit.
« Tes parents sont morts d'un accident de voiture. »
Il lui demande.
« Comment ?»
Elle lui dit.
« Ils étaient partis très tôt le matin parce qu'ils avaient beaucoup de route à faire et toi, tu es parti avec eux. Et puis durant le trajet, la voiture a eu un ennui technique. On ne sait pas pourquoi. Et tes parents sont morts. Toi, tu as été simplement blessé à la tête. Cet accident a été terrible. La voiture a pris feu. »
Il lui demande, « Pourquoi la voiture a-t-elle pris feu ?»
Elle lui dit gênée, « On pense que le conducteur a fait une erreur de fabrication. »
Le constructeur, pardonne-moi, pas le conducteur, le constructeur.
Comme tu vois, les voitures sont dangereuses, très dangereuses.
Il ne répond pas. Elle se retire.
Lui retourne à ses voitures. Il refait l'accident de ses parents.
Adrien, dans la nuit, a de drôles de rêves. Il rêve de ce qui s'est passé avec le docteur. Ça lui fait de drôles de sensations. Il ne se souvient plus vraiment de ce qui s'est passé, mais il se souvient surtout des sensations qu'il a aimées. Quelque chose de bon dans tout son corps. Ses mains qui le caressaient de partout. Et puis lui qui bandait. Il se réveille d'un coup, avec une sensation étrange. Il aimerait bien que ça recommence.
Les gens souffrent, c'est surtout les pauvres, de la chaleur, la poussière, le chômage. Les gens commencent à se démoraliser et puis il y a le manque d'eau qui se fait sentir et aussi les difficultés pour trouver de quoi s'alimenter. Les SDS n'ont plus d'eau et ont quasiment rien à manger. Ils maigrissent. Se sentent mal, boivent pour remplacer l'eau. De plus en plus de vin bon marché, ce qui crée des bagarres dans les rues.
Yeah.
une nuit, s'est arrêté devant l'immeuble de l'avocat, une voiture noire. En sort deux hommes en noir. Pour entrer dans l'allée, il sonne à l'interphone de la concierge. Une voix qui doit être la concierge fait « Oui !» Un des hommes dit « Pardonnez-moi, madame, mais j'aimerais rentrer, j'ai oublié mes clés. Pouvez-vous m'ouvrir, s'il vous plaît ?» Elle fait agacée « Oui !» Ils entendent le déclic de la porte de l'allée qui s'ouvre et ils entrent. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Jugnet, Erebos. Production, mise en scène, Jean-Pierre Jugnet.